Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shavuot Tov. Rav Lemel, alors on poursuit l'étude de notre paracha, ce passage que nous lisons dans nos communautés chaque semaine. Et donc voilà, bah ce soir, samedi soir, on arrive à un nouveau texte. Et c'est Vaishlar. Vaishlar nous raconte la rencontre entre Yaakov et Esav, entre ces deux frères qui, croit-on comprendre, vont probablement en découdre, on parle de guerre. Et finalement, non. Les deux frères se réconcilient et donc, dans les moments de rencontre entre eux, chacun raconte ce qu'il est devenu, ce qu'il possède. Et dans la manière de raconter ce qu'il possède, vous y avez vu, vous, un enseignement. D'abord déjà, bah, que possède-t-il l'un et l'autre? Qu'est-ce qui a été important pour chacun dans la manière d'en parler et donc du rapport que chacun a par rapport à ce qu'il possède? Vous y voyez, vous, un enseignement, évidemment à la lumière de ce que nous disent nos maîtres, un enseignement très profond. On vous écoute, Rav Eli Lemel.
Oui, en effet, on constate dans cette paracha qu'il va y avoir cette rencontre entre Yaakov et Esav. Et Yaakov va tout faire pour calmer la colère potentielle de son frère, et c'est la raison pour laquelle, entre autres, il va lui envoyer toutes sortes de cadeaux. Et la rencontre a lieu, et Esav, évidemment, a reçu déjà tous ces cadeaux que Yaakov lui a envoyés, et il interroge. Et il lui dit, c'est quoi tout ce camp-là que j'ai rencontré? C'est quoi toutes ces choses-là? Et Yaakov de lui dire, eh bien, c'est de lui dire, pardonnez-moi, c'est pour trouver grâce à tes yeux. Et là, la réponse de Esav, elle est très intéressante, puisque il va dire, va yomer Esav, yesh li rav. Esav dit, yesh li rav. J'en ai amplement, j'en ai suffisamment, j'en ai beaucoup au fond. Garde ce qui est à toi. Et Yaakov insiste. Il dit, je t'en supplie, prends ces cadeaux. Et il exprime quelque chose, riyash l'icole, parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. A priori, c'est un échange, voilà, entre deux frères. Seulement ici, évidemment, il y a des termes qui sont pas totalement les mêmes. Et ça va dire, yesh li rav, j'ai beaucoup. Yaakov va dire, yesh l'icole, j'ai tout. Et on a ici, donc, en effet, deux visions très différentes du rapport qu'ils ont au monde et surtout avec les brachot qu'ils ont reçus. Parce que rappelons-nous que Yaakov et Esav ont reçu des brachot. Ils ont reçu ces fameuses bénédictions et qui sont des bénédictions dans lesquelles, eh bien, ils vont avoir, ils vont posséder. Alors, elles vont être formulées de manière différente, mais ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il va y avoir des possessions, qu'il va y avoir de la richesse, ça va faire partie de l'histoire des deux. Seulement, se pose la question, quel est le rapport que l'on a à la chose? Et ça va dire, yesh li rav, j'ai beaucoup. C'est-à-dire que Esav s'inscrit dans une vision du monde dans lequel, si je peux avoir encore, pourquoi je m'y refuserai? Traduit de manière différente, ce que je possède, ce n'est pas juste quelque chose qui est chez moi parce que j'en ai besoin, mais parce que j'ai besoin de ramener à moi ce qui n'est pas encore présent dans mon histoire. Au fond, si on réfléchit, la plupart du temps, beaucoup de choses que nous possédons, nous n'en avons pas besoin, voire même nous ne les utilisons pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de posséder ces choses? Puisque si on s'arrête et qu'on réfléchit très pragmatiquement, on n'en a pas réellement besoin, voire même parfois on ne les utilisera pas. C'est ce désir que l'on a de s'approprier, le désir que l'on a de ramener à soi les choses. Et Esav, eh bien, construit sa vie autour d'un modèle de ce type. C'est-à-dire que cette tendance, j'ai presque envie de dire naturelle, qu'a l'être humain de vouloir s'approprier ce qu'il n'a pas encore, de ramener à lui ce qui n'est pas encore présent dans son existence, eh bien, Esav la proclame. Il l'a dit, yesh li rav, j'ai beaucoup, mais je vois toujours ce que je pourrais avoir encore. Yaakov va dire, non, Yeshli Kol, j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que j'analyse ce que je possède et je regarde tout simplement l'utilité des choses. Et à partir du moment où elles sont là, eh bien, ça me suffit amplement. Maintenant, si le reste arrive, s'il y a autre chose qui arrive, dans ce cas-là, évidemment, ce n'est plus Yeshli. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez que le terme ici que le texte utilise, c'est Yesh, il y a Li pour moi. C'est cette notion de qu'est-ce que j'ai besoin pour moi. Et ça veut dire, non, Yesh Li Rav, j'ai pour moi beaucoup. Traduction, mais pour moi, il peut y avoir encore plus. Alors que Yaakov dit, Yesh Li, il y a pour moi, colle tout ce qui est nécessaire. Et donc, si il y a quelque chose de plus qui arrive, parce que, eh bien, la richesse peut faire partie de l'existence, eh bien, c'est plus Li, c'est plus pour moi. C'est pour autre chose, c'est pour remplir une mission, c'est parce que j'ai une fonction à remplir. Et donc, c'est la raison pour laquelle on comprend que Yaakov n'a pas de problème avec la richesse. Et d'ailleurs, il est extrêmement riche parce que Li, pour moi, j'ai ce qui est nécessaire. Et donc, le reste, évidemment, c'est une interrogation sur l'utilisation que je dois en faire dans l'univers dans lequel je me trouve. Et on a ici, donc, cette différence fondamentale qui est en train de s'inscrire entre les deux. Alors, évidemment, tout de suite après, une fois que ça a été dit, Yaakov va entendre son frère qui lui dit « Bon, ben, Nissa venelcha venelcha, on va peut-être maintenant voyager ensemble. » Et là, tout de suite, Esav, pardonnez-moi, Yaakov dit « Non, Adoni Yodéa, tu sais très bien qu'Ailadim Rakim, que les enfants sont tendres. » C'est ça au fond là, à dire délicat peut-être. Et au fond, j'ai aussi beaucoup de choses, donc ça va prendre du temps. Et c'est peut-être pas la bonne chose que je voyage avec toi. Pourquoi Esav il propose immédiatement à Yaakov de voyager avec lui? Quel est son intérêt? Au fond, ça y est, ils se sont rencontrés. Yaakov lui a donné des cadeaux, ils ont échangé. Ça y est, il semblerait qu'il y ait, entre guillemets, une forme de paix qui s'est installée entre eux. En tout cas, il n'y aura pas d'agression. Et ça lui dit, bon, mais alors tiens, on voyage maintenant. Et ça, c'est très bien que Yaakov n'a pas la même vie que lui, n'a pas la même vision de l'existence que lui, n'a pas les mêmes occupations que lui, n'a pas les mêmes, on va même dire, loisirs que lui. Alors, pourquoi il lui propose? On pourrait imaginer que quand Esav entend Yaakov dire « Yesh l'école, j'ai tout ce dont il a besoin », au fond, il est en train de réaliser qu'il va se retrouver dans l'histoire, confronté à quelqu'un qui est proche de lui, c'est son frère, mais qui dira « Mais interroge-toi sur ton besoin permanent de consommer et d'avoir ». Or, c'est dérangeant quand quelqu'un vous interroge. Pourquoi? Parce que Yaakov aura une autre relation aux choses. Alors, il dit « Ben, voyageons ensemble ». Peut-être que, à ton niveau, à toi, Yaakov, je n'aurai pas la possibilité de transformer ton regard sur les choses, mais tu es là, tu as tes enfants. Et donc, tes enfants, voyageant à mes côtés, voyant en effet ce que je possède et la manière dont je l'utilise, je vais le traduire de manière un peu rapide, fréquentant la société de surconsommation, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils adhèrent. Et au fond, s'ils adhèrent, ils ne dérangeront plus puisqu'ils fonctionneront sur le même modèle que moi. On peut imaginer que c'est au fond ça que Esav recherche, c'est-à-dire une relation de proximité qui amènera, non peut-être pas chez le père, mais chez les enfants, une transformation et un modèle de fonctionnement qui sera beaucoup plus proche de celui de Esav. Et c'est la réponse de Yaakov qui nous éclaire. Rakim, les enfants sont délicats, rares, ils sont tendres. C'est-à-dire, Yaakov lui dit, oui, mais tu sais très bien que les enfants sont tendres, c'est-à-dire, ils ont une capacité d'absorption. Et je ne suis pas dupe. Je sais très très bien, au fond, pourquoi tu as envie de cette relation de proximité. Et je te le dis. Yaakov ne commence pas à lui dire, non, mais tu comprends, non. Adoni Yodéa Kailadim Rakim, les enfants sont délicats, les enfants sont tendres. Parce qu'il aurait très bien pu dire, Adoni Yodéa Kailadim Ktanim, les enfants sont petits. Et c'est vrai, si c'est le cas, ils sont petits. Non, rares. Rares, c'est tendre. Donc, ça nous renvoie à quelque chose qui n'est pas complètement, j'ai pas envie de dire dur, parce que ça peut avoir une connotation péjorative. Mais en tout cas, il y a une capacité d'absorption. Et ça, c'est quelque chose que je ne désire pas. En effet, Yaakov nous montre à nouveau, et c'est une idée qu'on va voir souvent dans la Torah, la vigilance que l'on doit avoir dans la proximité qu'auront nos enfants avec un modèle qui est au fond extrêmement tentant, mais qui, au bout d'un moment, peut les amener à avoir une vision différente de ce que la Torah nous propose d'avoir sur l'histoire. Parce que la rencontre avec Esav aura lieu par la suite. Évidemment, les enfants vont grandir, ils vont rencontrer Esav, ils vont le rencontrer dans cette société. Seulement, ils auront déjà façonné un rapport au monde et aux choses qui leur permettra de mieux se positionner par rapport à cela. Et c'est peut-être cette leçon, au fond, qu'on a besoin de prendre ici, dans cet échange dans lequel c'est très clair. Mais vous savez, il y a juste un mot qui change. Mais juste ce mot-là, il veut tout dire. J'ai beaucoup, mais je suis prêt à avoir plus. Et je l'y colle. J'ai ce qu'il me faut. Et donc, si j'ai plus, c'est plus pour moi, c'est pour les autres. Et à ce moment-là, Esav est très conscient et dit, alors viens, on avance ensemble. Parce que peut-être que chez tes enfants, il y a des choses qui vont bouger dans la fréquentation qu'ils auront de mon modèle. Yaakov, très clair, non, Adoni Yodéa, tu sais très bien, les enfants sont rakim, ils sont tendres, ils vont en effet absorber. Et au fond, Yaakov n'a pas peur d'assumer la raison pour laquelle il ne veut pas de cette relation de proximité, en tout cas pas maintenant, pas avec des enfants qui ont besoin encore d'être construits, et c'est peut-être une leçon fondamentale par rapport à nous dans l'histoire. Voilà donc quelques pistes de réflexion, et qui, j'ai l'impression en tout cas, sont terriblement actuelles.
Rav Eli Lemel, merci pour ce bel enseignement et je vous souhaite Shavua Tov. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai.
Bonsoir, Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et on se souhaite des bonnes nouvelles.
Ben, tiens, et on en a besoin et on est sûr qu'elles vont arriver. On est dans un bon mois et on va avoir des bonnes sources d'inspiration et des choses qui vont arriver dans nos vies à tous. Je le souhaite tout particulièrement à vous qui êtes à Jérusalem. Rav Mordechai Biton, vous voulez intervenir sur j'ai presque envie de dire à cheval entre les deux parachutes que sont Vayetse et Vayishlach, et parce que vous voyez dans la destinée, je ne résume pas, je sais juste essayer de vous donner la parole et donc d'introduire ce que vous m'avez dit que vous souhaitiez évoquer. Donc Yaakov est en fait, c'est pas un hasard qu'il s'appelle Israël, une espèce de super structure de tous les exils du peuple juif, y compris le retour, puisqu'après l'Égypte...
Oui, la vie de Yaakov, absolument, la vie de Yaakov, c'est quelle figure. Alors, c'est pour ça, il faut regarder le Khatam Sofer, c'est que le Khatam Sofer a vécu environ un peu moins de 200 ans en Autriche, en Allemagne, et sur la paracha de Vayishlach, il dit la chose suivante, il dit que toutes les parachas, toutes les sections hebdomadaires de Vayetse et Vayishlach, en fait, elles sont une résonance des événements et des époques différentes qui vont être traversées par le peuple juif tout au long de ses exils. Et il explique. Parashat Vayetse, donc la paracha qu'on a lue ce Shabbat, la paracha de Vayetse fait référence à la période où les juifs, comme Yaakov, qui vient chez Lavan, il va s'enrichir. C'est vrai qu'il va passer de nombreuses épreuves, il va avoir du mal à s'imposer, mais finalement il va s'enrichir. Il dit, il y a des périodes pendant lesquelles les juifs s'enrichissent, et dans les différentes terres où ils sont passés en exil, eh bien leur situation s'est améliorée. Mais Parashat Vayishlach, par contre, elle fait référence, et c'est celle qu'on va lire la semaine prochaine, elle fait référence aux périodes où le peuple juif va être poursuivi, persécuté par les nations du monde. Et donc le Ramban, Nachmonide, sur Bereshit, au chapitre 32, au verset 26, je donne les références, comme ça vous pouvez le relire dans le texte, le Ramban Nachmani, dans son commentaire sur le chapitre 32, verset 26, dit « Tout cet événement-là, c'est-à-dire la lutte qui va être racontée dans Parashat Vayishlach entre l'ange tutélaire de Esav et Yaakov, eh bien c'est une allusion aux générations où Esav va prendre le dessus sur Yaakov à tel point qu'il se rapproche de le détruire complètement. » D'accord ? Et c'est ce qui s'est passé, dit le Ramban d'Armanie, dans les périodes des croisades, où on a vu que par le fer et par l'épée, eh bien, les nations du monde sont pratiquement arrivées à anéantir des communautés entières. Et il y a d'autres générations, par contre, où c'est où il dit le Ramban, il ajoute, il y a des nations, d'autres nations, où ils nous feront pire que ça. Lui, il parle après les croisades, hein, où ils nous feront pire que ça. Et on voit que ce qu'on a supporté, eh bien, ça va se conclure finalement par une délivrance, puisque Vayavo Yaakov Shalem, pour Parashat Vayishlach, on nous dit à la fin finalement, après la lutte avec l'ange tutélaire de Esav, Yaakov finalement va triompher, il va sortir Shalem, il va sortir plein et entier. Alors c'est très intéressant parce que c'est très intéressant que le Ramban, qui a vécu il y a 8 siècles, qui a vécu donc après les croisades, mais bien avant la Shoah, puisse dire dans son commentaire, il y a ici une préfiguration de l'histoire où finalement le peuple juif traverse des périodes de persécution. Évidemment, c'est un petit peu ce qu'on voit. Yaakov, il est en exil chez Lavan, le peuple juif est en exil, part en exil, il est plus ou moins bien reçu quand il s'installe dans certains pays. Finalement, comme Lavan a tenté physiquement de détruire Yaakov, ces peuples-là vont tenter de se retourner contre nous. Puis à un moment donné, voyant que ça ne marche pas dans l'histoire, on va observer, il y a en 200 ans, une tentative d'anéantissement spirituel cette fois-ci, puisque après l'ouverture des ghettos et la chute des murs des ghettos, la civilisation occidentale va tenter toutes sortes d'opérations de séduction forcée, comme par exemple ce que Napoléon va faire avec le grand Sanhédrin, où il va tenter de créer un judaïsme français sur mesure, complètement dégagé donc de toute référence au Messie, à la reconstruction, etc. Et c'est ce que vont faire plus tard les réformistes. Et on voit à la fin de Parashat Vayitzé d'ailleurs que Lavan, voyant qu'il ne peut pas détruire Yaakov, eh ben, va construire un monument qu'il va appeler Galed. Yaakov va l'appeler Galed, c'est le monument du témoignage qui témoigne que voilà, il y a un accord entre nous, tu ne peux pas m'attaquer. Et lui va vouloir l'appeler en araméen. Yaguer Saadouta. Et Yaakov finalement dit non, on va lui donner un nom hébreu, et on voit que finalement Lavan finit par accepter le nom hébreu qui est donné. Et ça, c'est aussi une préfiguration de tout ce qui va se passer plus tard dans l'histoire du peuple juif, où là, cette fois-ci, la persécution, entre guillemets, sera plus, on va dire, berachamim. Elle sera plus avec une certaine douceur, comme le dit Rabbeinu Bechaye, où les nations du monde tentent de nous assujettir sur le plan culturel. Mais là aussi, Am Israël va vivre des processus de teshuva, des processus de renforcement spirituel. Et puis ensuite, après, il y a le retour de Yaakov en Eretz Israël. Il faut savoir qu'à chaque fin d'exil, à la fin de l'exil égyptien, on rentre en Eretz Israël. À la fin de l'exil du premier temple, on veut rentrer en Eretz Israël. À la fin de 2000 ans d'exil, on rentre en Eretz Israël. Qui on trouve sur notre route? Amalek. Quand on sort d'Égypte, c'est Amalek qui vient nous attaquer. On sort de l'exil du premier temple. Les enfants de Haman étaient à Jérusalem, envoyaient des lettres d'incitation à la haine contre le peuple juif, à l'empereur perse, et lui demandant de ne pas construire le Beth Amikdash. Et là, effectivement, on voit que finalement, Am Israël va triompher, va gagner, et une partie va revenir en Israël. Après 2000 ans d'exil, alors que le retour des juifs s'est amorcé depuis déjà le milieu du, le début du 18e siècle, Amalek, les nazis sont là, et nous empêche. Puis ensuite, on s'installe en Eretz Israël et là, il y a à nouveau des guerres. Alors ici, c'est intéressant parce que dans l'histoire des prophéties d'Israël, on voit que là, Ishmaël et ses descendants, le monde arabo-musulman, et Esav changent de rôle. Et c'est en fait Ishmaël qui va endosser le rôle du persécuteur. Alors c'est très intéressant parce qu'il va aussi endosser le rôle de Amalek. Alors j'ai eu l'occasion de le dire, mais je le répète, que lorsque Esav a vu que ça ne plaisait pas à Yitzhak et à Rivka, qu'il épouse des filles de Canaan, il est parti épouser des filles de Ishmaël. Mais il n'a pas répudié les premières, il n'a pas divorcé des premières, qui étaient des idolâtres et qui avaient des comportements affreux. Alors, il est resté avec ces femmes-là, et il a épousé également des filles qui venaient de Ishmaël. Et nous disent nos sages, c'est qu'en fait, Esav ne savait pas lesquels de ses enfants allaient bénéficier de la bénédiction qu'il avait reçue de Yitzhak, qui était « tu vivras par ton épée ». C'est-à-dire tu pourras conquérir et dominer le monde, et même dominer le peuple juif par ton épée. Il ne savait pas par où ça allait passer. Est-ce que ça passerait par les enfants qu'il aurait avec des descendants de Ishmaël, avec la fille de Ishmaël, ou alors avec les enfants qu'il aurait avec ses femmes de Canaan? Donc il s'est assuré une assurance vie, entre guillemets, une assurance plus dangereuse pour nous. En fait, on voit qu'il a imprimé dans sa descendance, puisque finalement, tout ce qui nous est raconté ici est une préfiguration de l'histoire du peuple juif, « Massé Avot Siman Labanim », ce qui est arrivé au père du peuple juif, c'est une matrice pour la suite. Il s'est assuré que l'épée de la destruction pourrait passer soit par lui, soit par Ishmaël. Et on le voit, nos sages nous le disent d'ailleurs à la fin de Parashat Toldot, lorsque Esav et Ishmaël se mettent ensemble, lorsque ses descendants ce qu'ils expriment comme haine vis-à-vis du peuple juif sont ensemble, eh ben on peut aboutir, excusez-moi si je fais un saut dans l'histoire et une chute vers la trivialité, on assiste par exemple à la création d'un Mélenchon. Ne mélangeons pas les torsions et les serviettes, et arrêtons de nous faire de la peine, mais soyons quand même clairs. On voit ici par exemple la réalisation de quelque chose dont nos sages nous ont parlé, lorsque Essav, l'Occident, dans sa haine, rejoint Ishmaël dans sa haine, ça nous donne des phénomènes comme celui qu'on est en train de vivre en France aujourd'hui, où on voit la rue arabo-musulmane, une sensibilité islamiste, se rapprocher des rouges-bruns et former ici un bloc de haine qui nous surprend, mais qui en fait, d'après nos sages, est parfaitement prévisible et parfaitement clair. Donc il y a ici une architecture historique, ça qu'il faut comprendre. Dans cette histoire d'exil, il y a une architecture historique, et finalement, qu'est-ce qui va se passer une fois que Yaakov est installé en Eretz Israël? Il va y avoir Shalem, il va être Shalem. Finalement, à la fin, eh bien, le peuple juif vivra son happy end avec cette délivrance messianique pour laquelle nous prions trois fois par jour, qui est imprimée dans nos sidours, dans nos livres de prière, et c'est très intéressant parce que les néologues, c'est-à-dire les réformistes, ceux qui ont voulu mutiler le judaïsme en Hongrie, la première chose qu'ils ont fait à la suite des réformistes allemands, ça a toujours été d'enlever du sidour, du livre de prière, les références à la construction de Jérusalem et à la rédemption messianique. Comme si, en quelque sorte, il fallait absolument mutiler le peuple juif de cet espoir. Et on voit ici dans la paracha que ça fait partie du plan de l'histoire, qu'à la fin, Yaakov, qui est la figure en fait, du peuple juif, qui arrive à vaincre les exils, qui arrive à survivre aux exils, vient en Eretz Israël, et là, il parvient à être chalem, à être intègre. Et c'est très intéressant, je conclue avec ça, c'est qu'on nous dit qu'une fois que Yaakov a mené ce combat, il va construire des soukottes. Il va construire des soukottes. Et soukottes, ici, est une référence à la fête de soukottes. Et vous savez que la fête de soukottes est la fête à partir de laquelle, nous disent nos sages, la tradition messianique du judaïsme nous enseigne que la délivrance du peuple juif, les processus de la délivrance démarrent à la fête de Soukhot. Et donc ici, matière à réflexion également par rapport à notre actualité. Voilà, il faut dire, répéter aussi autre chose, c'est que la fête de Soukhot est une fête inimitable. Ni l'islam, ni la chrétienté n'ont réussi à imiter la fête de Soukhot. Une fête dans laquelle le juif se met dans une cabane et affirme que le monde dans lequel on vit est un monde dont on peut profiter, mais en ayant la bonne longueur, c'est-à-dire en ayant les pieds sur terre et la tête dans le ciel, et en sachant en quelque sorte donner à tout ce quotidien matériel, entre guillemets, une vraie valeur éternelle, un vrai lien avec ce qui est éternel, avec la valeur de la Torah. C'est une fête qui est inimitable et qui est en fait une fête qui exprime la civilisation du Beth Amikdash, du Temple, qui est celle pour laquelle nous prions pour la rédemption messianique. C'est une civilisation dans laquelle on est dans ce monde, on vit dans ce monde, on y est, on fait tout ce qu'on a à y faire, mais avec une claire conscience qu'il est guidé, qu'il est dirigé, qu'il est organisé par la main d'Hachem, par la main de Dieu et par la Torah, et finalement que ce monde matériel est guidé par des forces spirituelles. Il y a ici un message qui est un message d'harmonie, comme disait le Rav Munk dans son livre qui s'appelle « Vers l'harmonie », où en fait le judaïsme sait très très bien pratiquer cette harmonie entre ce qui semble matériel et ce qui semble spirituel, mais qui en fait relève d'une même réalité. Hachem crée un monde matériel dans lequel on doit accomplir des gestes spirituels. Voilà. C'est l'architecture de l'histoire qui se révèle dans ces deux parachas, et elles nous permettent un clin d'œil avec l'actualité, mais bien plus que cela pour qui veut réfléchir sur les événements en regardant l'histoire des prophéties du peuple juif. En tout cas, à toutes et à tous, Shavua Tov, et encore une fois, des bonnes nouvelles pour tout à Israël.
Shavua Tov, et on pense tout particulièrement à vous à Jérusalem. À la semaine prochaine, Rav Mordechai Biton, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous sommes en ligne avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Rav Gué, vous voulez nous dire que non seulement il n'est pas étonnant que Yaakov ait deux femmes, Rachel et Léa, parce que dans une certaine mesure, pensez-vous, évidemment vous le tenez de nos maîtres, on a tous deux femmes. On est tous mariés avec deux personnes. Vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire ?
Tout à fait. Je veux dire qu'en fait, chaque homme, lorsqu'il se marie, il a d'abord une Rachel. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez quelqu'un, donc un jeune homme qui rencontre une jeune fille, il est attiré par parce qu'elle est belle, parce qu'elle est sympathique, parce qu'elle est douce, enfin bref, toutes sortes de choses qui lui plaisent énormément, a priori. D'accord ? Ce sont des choses qui lui font donner envie de se dire oui. Oui, je dis oui parce que c'est une Rachel, c'est une femme qui me plaît, qui m'intéresse. Mais tout homme sait aussi que derrière cette façade, il y a aussi un autre aspect de la personnalité, c'est la partie Léa. Pourquoi j'appelle ça la partie Léa ? Parce que justement, Yaakov, il n'aimait pas Léa, parce que Léa, effectivement, avait les yeux abîmés, enfin, toutes sortes d'explications qu'il faudrait approfondir. En tout cas, Yaakov veut se marier avec Rachel, mais pas se marier avec Léa. Bon, Lavan fait le stratagème qu'on connaît, et finalement, Yaakov va se marier avec Rachel et avec Léa, les deux. Mais il n'empêche que lorsqu'on se marie, chaque homme sait qu'à travers, au début peut-être qu'il est aveugle et qu'il ne voit que la partie Rachel, mais à un moment, il va se rendre compte qu'il y a une partie qu'il aime un peu moins, qui est une partie cachée au départ, qui est celle de cette femme qui a des défauts ou des choses qui lui plaisent un peu moins, et qu'on appellera Léa. En fait, c'est quoi réussir son mariage ? C'est qu'en fait, Hachem a voulu en disant, vous savez, si vous devez rester que sur la partie de Rachel, c'est-à-dire la partie que vous aimez, que vous plaît, qui vous a plu depuis le départ, c'est en fait vous vous mariez pour vous-même, en fait. Parce qu'en fait, vous cherchez quelque chose de confortable, d'agréable, de sympathique, et qui est tout à fait à votre goût. Mais une personne, elle a toutes sortes de facettes. Il y a des parties qui sont effectivement plaisantes, mais aussi des facettes de la personnalité qui sont moins plaisantes et moins agréables, des défauts. Et on a tous des défauts, donc c'est évident qu'on en trouvera également chez notre épouse. Ou bien, tout simplement, des mauvaises habitudes, des choses qu'on n'aime pas, des façons d'être qui simplement ne sont pas des défauts, mais qui sont quelque chose qui ne nous plaise pas. Donc tout ça, ça s'appelle la partie Léa. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage réussi ? Un mariage réussi, ce n'est pas un mariage où on reste que sur ses préacquis, sur ses a priori, en disant, voilà, tant qu'elle est Rachel, c'est-à-dire qu'elle me plaît et que ça flatte mon ego, alors à ce moment-là, c'est ma femme et je suis très content d'être marié avec elle. Mais dès que je découvre la partie négative, la partie qui me plaît un peu moins, à ce moment-là, ben, finalement, ça ne m'intéresse pas, je souffre, etc. Non. En fait, un homme doit comprendre qu'une femme, elle a une personnalité. Cette personnalité est composée de choses qu'elle aime et de choses qu'il va moins aimer. Mais en fait, c'est elle, c'est une partie d'elle-même. C'est-à-dire qu'il faut accepter cette femme dans tout ce qu'elle est. C'est une personnalité complexe, on peut en dire que c'est composite, et il faut aimer la personnalité. Et ça, c'est tout le problème du mariage. Le mariage, c'est pas de se marier avec ce qui est plaisant, avec ce qui nous rend service, ce qui nous plaît, ce qui nous apporte que du bien-être. C'est de se marier aussi avec des choses qui ne sont moins plaisantes, mais qui font partie de la personnalité de cette femme, et auxquelles on doit s'attacher. Et peut-être je dirais même qu'un mariage réussi, c'est un peu comme Yaakov. Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est marié avec Rachel et Léa. Finalement, c'est Léa qui va être celle, qui va être à ses côtés, pour l'éternité, puisqu'il est enterré à côté de Léa, que Léa va lui donner 6 garçons, Rachel que 2, 6 garçons dont Yehuda, qui sera l'ancêtre du Mashiach et de David Amener, vous avez Lévi, l'ancêtre de Aaron, Moshe et Myriam, etc. Donc on a vraiment une partie très importante qui vient de Léa, et cette partie-là, effectivement, Yaakov va l'apprécier, l'aimer, comprendre son importance, peut-être en deuxième temps, mais et peut-être il sera moins attiré que la partie Rachel, mais elle ne sera pas moins sa femme, à part entière, et en plus une femme qui lui aura donné 6 garçons. Tout ça pour vous expliquer que réussir un mariage, c'est s'attacher à la personnalité. Et j'aime bien souvent citer cet exemple pour bien illustrer une façon un petit peu, on va dire, triviale, parce que c'est une façon, il y a beaucoup de choses à développer dans cette idée, mais je racontais que lorsque je me trouvais une fois un Shabbat en tant que célibataire, c'est-à-dire j'étais marié, mais j'étais sans ma femme, et j'avais un ami à moi qui était là aussi dans la même chambre, on partageait la chambre, lui aussi il est marié, mais sans sa femme. Et en fait, lorsqu'il s'agissait de se préparer à se coucher, moi j'ai proposé de laisser la fenêtre ouverte. On était en été, il faisait chaud, et je lui dis, bon, je te connaissant, tu peux vouloir que la fenêtre soit ouverte. Et lui dit, non, je veux fermer la fenêtre et je veux fermer les volets. Et je lui demande, mais pourquoi je me rappelle très bien que c'était pas ta... C'est pas ta sensibilité, tu n'es pas comme ça avant. Il dit oui, mais c'est ma femme. Alors je lui dis, mais ouais, ta femme, elle n'est pas là. T'es tranquille, il n'y a personne, il n'y a pas moi. Et il répond, non, mais nous aimons. C'est-à-dire, en fait, quelque part, il a adopté, il s'est habitué. Alors je parle de quelque chose de trivial, là, effectivement, un exemple trivial, mais j'ai adopté, même ce qui ne me plaisait pas au départ, même ce qui me déplaisait, finalement, ça fait partie de moi-même. C'est quelque chose auquel je suis attaché, habitué. Et ça fait partie de nous. On crée un seul être. Cet être, c'est prendre avec soi, adopter toutes les sensibilités de sa femme, même les parties qui sont a priori pas ma nature, mais finalement je les apprécie et je m'y attache. S'attacher à la personnalité et non pas à des choses qui me sont plaisantes et que je vois au départ, mais des choses qui sont peut-être moins plaisantes, mais finalement font partie de sa personnalité à tel point que même si elle devait changer, on ne serait pas content de l'avoir changé, parce que finalement, sa personnalité est composée de Rachel et Léa. C'est un peu ça le message qui est intemporel. Hein. C'est vrai que c'est lié à la paracha qu'on a lu ce Shabbat, la paracha de Vayetse, mais tout simplement, c'est quelque chose qui se passe dans tous les couples, et c'est ça la garantie un peu là, pour être sûr de réussir sa vie de couple. Il faut bien comprendre cela et bien le vivre, et bien faire comprendre à sa femme que ce qu'on aime chez elle, c'est ce qu'elle est elle, pas ce qui absolument me flatte, me plaît, etc. Même les parties qui au départ, ou qui même maintenant me déplaisent, mais finalement font partie d'elles, ben je m'y attache, je les adopte, et finalement on fait un seul couple, un seul être, et c'est comme ça qu'un couple réussit, qu'on a le Shalom Bayit jusqu'à 120 ans. Voilà ce que je souhaite à chacun, à tout le monde, voir le Shalom Bayit, la paix dans les nages, pas seulement la paix, parce qu'il y a pas, il y a le cessez-feu, hein, on parle pas de cessez-le-feu, on parle d'un paix, c'est une paix, ça veut dire d'un sentiment de plénitude, de complémentarité et d'adopter véritablement tout ce que sa femme ressent et aime et d'en faire quelque chose comme si c'était une partie de nous-mêmes et que ça faisait partie de notre histoire depuis toujours.
Mais Rav Gué, on le souhaite pour nous tous, effectivement, sachant que c'est un combat qui est quotidien, qui peut être très beau comme combat. Ah oui, il y a cette fameuse phrase d'ailleurs, je parle sous votre contrôle, Yaakov, le temps passé chez Laban lui a semblé comme un seul jour, je crois qu'on dit. Parce que
cette année qu'il travaillait pour se marier avec Rachel, sont passés très vite.
Parce qu'il était tellement amoureux.
Voilà. Il était très attaché à Rachel, il voulait absolument se marier avec elle rapidement, et il a senti effectivement comme si ça passait très vite.
C'est Minatora, c'est pas un commentaire, c'est vraiment le texte qui dit ça comme ça. Et hein, c'est beau, hein. Ouais, j'ai connu des gens, des juifs algériens, qui étaient des grands-parents d'amis à moi, ils mangeaient dans une seule assiette. Mais en France, hein, c'était pas du tout que, voilà, ils en étaient arrivés au point où ils mangeaient, ils se servaient que pour eux deux, ils se servaient une fois, et ils disaient nous, qu'est-ce qu'on mange? Et ils mangeaient dans la même assiette. Un truc incroyable. Une très très belle famille. Et c'est beau. Et ben, je vous souhaite chez vous à Tov. On n'oublie pas, Rav Gué, l'idée que vous avez eue dans cette émission de dire que voilà, au moins pendant toutes les événements en Israël, on continue de créer du lien, on appelle quelqu'un, on le fait exprès, on se force à faire un petit geste et on ajoute quelque chose ce soir. On peut lire un livre, hein, c'est bien de lire un livre ou de lire une biographie ou de lire un passage de la paracha de la semaine prochaine. On peut trouver ou bien Tehilim ou faire comme vous aviez dit la semaine passée. Seuda Melave Malka, la Seuda de Melave Malka. Enfin, on trouve plein de choses à faire. On rajoute un petit truc. On peut même mettre 1 euro dans la tzedaka si on veut, si vraiment on n'a pas envie de faire de gros efforts. Rav Gué, je vous remercie et Shavua Tov.
Shavua Tov, merci.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Je vous souhaite à tous et à toutes. Shavua Tov. Shalom leivoy naboy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoy mai, Hashem lo yine bayis. Shalom leivoy naboy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoy mai.